Il y a des dimanches où on a l'impression de courir un petit peu. Et c'est mon cas aujourd'hui. Ce matin, j'étais à l'église One Heart de Montreuil, ce qui explique pourquoi je suis arrivé un peu en retard. Je vous demande de m'en excuser. Mais voilà, je suis là. Et j'espère que votre semaine a été bonne. Je ne sais pas. Peut-être certains avec des hauts et des bas, de la fatigue. Peut-être certains qui ont été malades. En ce moment, c'est vrai que notre corps est mis à rude épreuve, hein. Alors, je vous propose que nous puissions venir nous rafraîchir auprès de Dieu. Nous l'avons déjà fait par ce temps de louange. Et maintenant, nous nous mettons à l'écoute de sa parole. Que nous puissions venir à Dieu pour nous rafraîchir si nous sommes fatigués, si nous trouvons que la vie est pesante en ce moment. Eh bien, venons auprès de Dieu. Il a quelque chose à nous dire. Et effectivement, aujourd'hui, j'aimerais parler de ce texte dans Galates chapitre 2 pour vous rappeler un petit peu dans quel contexte on se situe. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Galatie, qui se situent de ce côté-là d'Asie mineure. Et ces chrétiens, eh bien, à un moment donné, en fait, se sont laissés séduire par tout un groupe qu'on appelle les judaïsants, et qui leur ont tout simplement enseigné tout autre chose que l'évangile que Paul leur a apporté. Donc les Galates se sont complètement laissés séduire par ces judaïsants qui leur ont dit tout simplement, non seulement, oui, vous croyez en Christ, c'est bien, mais en plus de cela, il faut obéir à toute la loi de Moïse. Et cela s'adressait tout particulièrement à des Galates qui sont des non-juifs. Donc pour eux, obéir à la loi de Moïse, ça ne leur parlait pas vraiment. Et donc là, il y a des judaïsants qui arrivent et qui leur disent tout simplement, il faut que vous puissiez obéir, sinon vous ne pouvez pas être sauvés. Voilà quelque chose qui déforme complètement l'enseignement de l'apôtre Paul. Et dans cet épître, eh bien, forcément, Paul veut dénoncer cela. Il veut dénoncer que le discours de ces gens, eh bien, c'est un faux évangile. En fait, ce n'est pas un évangile. Ce n'est pas le véritable évangile. Ce n'est pas celui que Paul leur a prêché pendant son voyage missionnaire. Et avant d'en arriver à la lecture de notre texte, simplement Paul a rappelé aussi dans les grandes lignes son parcours depuis sa conversion à Christ, jusqu'au moment où il a été reconnu par les colonnes de l'Église, Jacques, Pierre et Jean, reconnu en tant qu'apôtre des non-juifs. Et donc, Paul raconte un petit peu tout cela dans les grandes lignes, et voilà où nous en sommes dans cette lettre. Et je vous invite à suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu au chapitre 2, à partir du verset 11. Donc, après avoir parlé du fait qu'il a été reconnu comme apôtre, notamment par les colonnes de l'Église, voici ce qu'il dit. « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. » En effet, avant le venu de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit, puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs. Comment veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ? Nous, nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ, et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si en cherchant à être déclaré juste en Christ, nous avons été trouvés pécheurs nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché ? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Il faut le reconnaître, ce n'est pas un texte facile à comprendre à la première lecture. Vous êtes d'accord ? Mais il ne fait aucun doute que Paul avait à cœur de défendre l'évangile coûte que coûte, y compris en s'opposant à l'apôtre Pierre, qui n'était pas n'importe qui aux yeux des chrétiens. Et Paul ici développe ce que nous appelons en théologie la doctrine de la justification par la foi. Nous parlons souvent dans nos églises de salut, de la croix, du pardon des péchés, et nous l'avons mentionné aussi dans la première partie du culte. Et peut-être que je me trompe, mais nous parlons moins couramment de la justification. Nous parlons moins souvent du fait que Dieu nous a déclarés justes. Qu'il a déclaré justes celles et ceux qui ont placé leur foi en Christ. Il me semble que ce thème de la justification, on en parle assez peu dans nos églises. Pourtant, dans l'histoire de l'Église, c'est justement cette doctrine-là qui a été défendue par les réformateurs, comme Martin Luther il y a 500 ans. Et c'est d'ailleurs à cette époque que nous avons des expressions latines comme « sola fide », que vous avez vu tout à l'heure, « sola fide », par la foi seule. Et nous verrons cet après-midi comment l'apôtre Paul expose cette doctrine aux Galates. Et combien ce message de la justification par la foi seule est libérateur pour nous. Et j'espère effectivement qu'à l'issue de ce message, à l'issue de votre compréhension de ce texte, eh bien, vous vous sentirez léger. Alors restons attachés à la vérité de l'Évangile, qui est la suivante. Dieu nous déclare juste, non selon les œuvres de la loi, mais seulement par le moyen de la foi en Christ. Dieu nous déclare juste non selon les œuvres de la loi, mais seulement par le moyen de la foi en Christ. Nous avons peut-être tous déjà vu cette scène dans les films ou dans les séries où un personnage rejoint les autres pour manger et immédiatement, eh bien, ces derniers s'empressent de quitter la table, comme pour le fuir. Vous avez déjà vu ça ? Ça vous rappelle des scènes que vous avez peut-être déjà vues dans des films. Ça se passe souvent à l'école d'ailleurs. Et si vous l'avez déjà vécu vous-même à l'école, eh bien, je compatis à cela. Et vous comprenez alors que ce que les chrétiens d'origine non-juive ont pu penser quand Pierre a cessé de manger avec eux. Et Paul raconte ce qui s'est passé lorsque Pierre était à Antioche. Je vous rappelle, d'après Actes chapitre 11, c'est à Antioche, dans cette ville, que Paul et Barnabas ont œuvré ensemble dans un premier temps. Et c'est pour ça que dans notre texte, il est question de Barnabas aussi. Alors on peut se demander, pourquoi Paul raconte-t-il cet épisode où il est en train de reprendre publiquement Pierre ? Eh bien, dans la logique de son argumentation, Paul veut démontrer aux Galates que l'évangile qu'il est en train de prêcher, qu'il leur a prêché, vient du Seigneur. Et non des hommes. Dans la logique de son argumentation, il veut leur montrer que son mandat apostolique a été reconnu par les piliers de l'Église, dont Pierre. Seulement, durant son séjour à Antioche, Pierre n'a pas marché droit. Pierre n'a pas marché selon la vérité de l'Évangile. Et je vous propose de regarder cela de plus près. D'abord, j'aimerais souligner que le problème qui se posait à l'époque, c'est que pour un juif pieux, il n'était pas permis de manger avec un non-juif, au risque de devenir impur. Parce qu'on ne savait pas forcément ce qu'on allait manger ensemble, et donc il y avait ce risque d'impureté. Mais visiblement, vous voyez ici, au verset 12, que Pierre n'avait aucun souci avec ça. Il n'avait aucun scrupule à manger avec des chrétiens d'origine non-juive. Parce que précédemment, on peut penser que ça s'est passé avant, précédemment, eh bien, notamment si vous vous souvenez de l'histoire avec l'officier romain Corneille, ça vous dit quelque chose, aux uns et aux autres, eh bien, lors de cette histoire-là, lors de cette rencontre avec Corneille, Pierre a compris que la séparation entre juifs et non-juifs n'avait plus lieu d'être. Pierre a compris que désormais, eh bien, l'Esprit Saint pouvait descendre aussi sur des non-juifs. Actes chapitre 10. Mais voilà que quand des personnes d'origine juive arrivent à Antioche, qu'est-ce que fait Pierre ? Ben, Pierre n'assume plus. Pierre n'assume plus ses convictions et on lit ici au verset 12 « par crainte des circoncis ». Alors, on ne sait pas exactement, les commentateurs débattent là-dessus, qui sont ces circoncis ? Est-ce que ce sont les personnes qui viennent d'arriver de l'entourage de Jacques ? Est-ce que c'était en fait l'ensemble des Juifs ? En tout cas, Pierre a eu à ce moment-là, on ne sait pas, des scrupules. On ne connaît pas exactement ses motifs et je ne vais pas chercher à en inventer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit ce qu'il est en train de faire. Pierre se met à l'écart. Alors qu'il avait l'habitude de manger avec les non-juifs, tout d'un coup, il se met à l'écart. Et pour le coup, vous voyez que dans son sillage, eh bien, il entraîne d'autres, y compris Barnabas. Et regardez les termes que Paul emploie, verset 13. Ils pratiquent un double jeu. Ils font preuve d'hypocrisie. Verset 14. Ils ne marchent pas droit. Ils ne marchent pas selon la vérité de l'Évangile. Et lorsque Paul voit cela, quelle est sa réaction ? Il ne va pas rester silencieux. Parce que là, ils ne sont pas en train de marcher droit selon l'Évangile. Eh bien, il reprend publiquement Pierre. Alors, on connaît un peu peut-être le tempérament de l'apôtre Paul. Et il n'hésite pas ici, parce que l'Évangile est menacé, de reprendre publiquement Pierre. Et de lui dire quoi ? Et c'est là que cela demande peut-être quelques explications. Voici ce qu'il lui dit. « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ?» Vous avez compris ? Alors, il faut peut-être relire ce que Paul est en train de dire ici. Je vais essayer de reformuler. En gros, il dit à Pierre, « Tu es juif ?» Et tu as compris que tu pouvais être en communion avec des frères et sœurs non-juifs. Et que de cette manière-là, en fait, bah, tu peux vivre comme des non-juifs, à la manière des non-juifs. D'accord. Mais là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu changes de comportement. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu ne manges plus avec eux sous prétexte qu'ils sont non-juifs. Donc, en fait, tu es en train de retourner à tes anciennes règles. Et en faisant cela, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Eh bien, tu leur laisses entendre qu'ils doivent vivre comme des juifs s'ils veulent pouvoir être en communion avec toi. Forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs. Voilà ce que Pierre, par son attitude, a laissé entendre. Finalement, c'est se demander à ces non-juifs de retourner à la loi de Moïse, de respecter par exemple les règles alimentaires, et finalement d'ajouter à leur foi les œuvres de la loi. Alors, bien sûr, on connaît l'apôtre Pierre et on sait qu'en réalité, ici, même s'il a changé de comportement, ça ne veut pas dire qu'au fond, il a changé de conviction. Il n'a pas changé d'avis concernant les non-juifs. Mais son attitude à ce moment-là, eh bien, ressemblait tout simplement à un reniement de l'Évangile. Et nous connaissons bien la faiblesse de Pierre en termes de reniement. Et en racontant cet incident à Antioche, Paul montre aux Galates qu'il n'est pas d'accord avec tout ça. Et ce qui s'est passé à Antioche peut très bien se produire de nos jours dans nos églises. Nous pouvons croire en l'Évangile sans pour autant vivre l'Évangile. Évidemment, si nous n'avons aucun souci, ici notamment, de manger ensemble, nous n'avons pas ce problème. Il se peut par contre que nous fassions sentir à nos frères et sœurs en Christ qu'ils ne sont pas à la hauteur, comme s'il leur manquait quelque chose pour être acceptés par Dieu. Nous posons un jugement sur tel frère qui ne prie pas assez, qui ne lit que rarement la Bible. Nous posons un jugement sur telle sœur qui ne jeûne pas, ou peut-être qui ne sert pas dans l'Église. Et si nous ne le disons pas, eh bien parfois nous le pensons. Et en ce sens, nous imposons aux autres de se conformer à des règles pour faire partie de quel cercle ? Le cercle des vrais chrétiens. Et vous savez comment cela s'appelle ? Cela s'appelle le légalisme. Le légalisme, celui qui est légaliste, veut obéir à la loi de Dieu dans le but d'obtenir de Dieu son salut ou sa faveur. Et le problème avec le légaliste, c'est qu'il va jusqu'à imposer aux autres de faire de même. Il faut obéir à Dieu si tu veux plaire à Dieu, si tu veux sa faveur, si tu veux être sauvé. Et c'est précisément contre le légalisme que Paul se dresse. L'évangile de Jésus-Christ, qui met en avant la grâce de Dieu, ne dit pas qu'il faut obéir à la loi pour que Dieu nous déclare juste. L'évangile de Jésus-Christ ne dit pas qu'il faut obéir à la loi pour que Dieu nous déclare juste. Et de la même manière, évitons de laisser entendre dans l'Église qu'il faut faire telle ou telle chose pour être acceptable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas l'Évangile. En tout cas, ce n'est pas l'Évangile qui est dans la parole de Dieu. La loi de Dieu n'a pas pour rôle de nous sauver. Car nous ne pouvons tout simplement pas respecter le principe suivant. L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Lévitique, chapitre 18, verset 5. Autrement dit, il faut obéir à toute la loi si on veut mériter, en quelque sorte, la vie. La loi de Dieu n'a pas pour but de nous sauver. Alors, vous me direz, quel est le rôle de la loi ? Ben pour ça, il faudra lire la suite de l'épître aux Galates, puisque Paul en parle. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pour le moment, juste affirmons que avec l'apôtre Paul, que Dieu nous déclare juste, non par les œuvres de la loi, mais bien par la foi en Christ. Et je relis les versets 15 et 16. Nous sommes des Juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être déclaré juste sur la base de la loi en Christ, et non des œuvres de la loi. Puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Alors ici, dans la traduction de la seconde 21, les traducteurs ont considéré que Paul était en train de continuer à parler à Pierre. Et donc c'est pour cela que, ici, vous avez notamment au verset 15, ça commence par un guillemet, donc les traducteurs de la seconde 21 considèrent que Paul est en train de continuer à parler à Pierre. Dans d'autres versions, vous verrez que le discours s'arrête au verset 14, qu'après le verset 14, Paul arrête de parler à Pierre. Ce qui nous fait un petit peu hésiter, peut-être, c'est ce pronom « nous ». Parce qu'effectivement, nous, on a l'impression que Paul veut inclure Pierre. Nous sommes des Juifs de naissance. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Paul ici parle en tant que chrétien d'origine juive. Et c'est important parce que pour argumenter ce qu'il est en train de dire, eh bien, il faut qu'on se mette un peu à sa place. Donc, il en parle en tant que chrétien d'origine juive. Et à partir du verset 16, que vous avez là sous les yeux, Paul emploie un langage juridique. Parce que lorsqu'on parle de la justification, on emploie un vocabulaire juridique. Paul, ici, emploie ce vocabulaire. Autrement dit, aux yeux de Dieu, l'homme, qu'il soit juif ou non, ne peut être déclaré juste sur la base de ses propres œuvres. L'homme ne peut être déclaré juste sur la base de son obéissance à Dieu. Et pourtant, le juif pourrait se dire, en héritage, j'ai reçu la loi de Moïse. Donc j'ai quand même un avantage sur le non-juif. Parce que le non-juif, il n'est pas né dans un contexte du judaïsme. Mais moi, j'ai hérité de la loi de Moïse. Donc j'ai quand même un avantage devant Dieu. Mais non, il n'en est rien. Qu'on soit juif ou non, eh bien, devant Dieu, nous ne serons pas déclarés justes parce que nous aurons obéi à la loi. Aux yeux de Dieu, l'homme est déclaré juste, l'homme ou la femme, hein, vous l'entendez bien, est déclaré juste quand il place sa confiance en son Fils, Jésus-Christ. Et c'est tout. Si nous ajoutons quoi que ce soit d'autre, nous ne sommes plus dans l'Évangile. Mais quand nous mettons notre confiance en Christ, nous ne comptons plus sur ce que nous pouvons faire. Nous ne comptons plus sur nos propres forces, sur nos propres mérites, mais uniquement sur ce que Jésus a accompli pour nous. Et tout à l'heure, nous avons pris le temps de chanter à ce sujet-là. Quand nous mettons notre foi en Christ, nous ne comptons que sur ce que lui a fait et aucunement sur ce que nous pouvons faire. Mais attention, il s'agit bien de placer toute notre confiance en Christ et non pas en notre propre foi. Il y a une nuance ici. D'ailleurs, à ce sujet, on raconte qu'on a demandé à un vieillard s'il avait peur par rapport à l'éternité. Et vous savez ce qu'il a répondu ? Non, je n'ai aucun souci, puisque la Bible dit que si vous avez la foi, vous serez sauvés. Et moi, j'ai beaucoup de foi. Est-ce que vous voyez le problème dans sa déclaration ? Cet homme compte sur le fait qu'il a beaucoup de foi, plutôt que de compter sur Christ, qui a tout accompli pour lui. Et en ce sens, ce n'est pas notre foi, ce n'est pas notre capacité à croire qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Donc nous ne devons pas mettre notre confiance dans notre foi, mais en lui. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Parce que là, ça se corse un petit peu. Verset 17, « Si en cherchant à être déclaré juste en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché ? » Certainement pas. Ici, Paul semble reprendre des objections de la part des judaïsants. En fait, il faut qu'on commence maintenant à raisonner comme les judaïsants. Qu'est-ce qu'ils se disent ? D'après l'évangile que Paul prêche, on n'a pas besoin d'obéir à la loi pour être déclaré juste. Autrement dit, si on n'a pas besoin de pratiquer cela, eh bien, on est des pécheurs. Et donc, plus particulièrement pour le juif en question, eh bien, les judaïsants vont se dire, le juif est aussi pécheur que le non-juif, puisqu'il ne s'appuie plus sur l'obéissance à la loi. Et donc, dans le raisonnement de ces judaïsants, Christ serait donc complice du péché. Par ce principe qu'on n'a pas besoin d'obéir à la loi, dans ce cas-là, Christ fait des chrétiens des pécheurs, d'après leur raisonnement. Bien sûr, Paul va rectifier tout ça et va démontrer que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre la justification par la foi. Et Paul va utiliser l'image de la construction. Et il va falloir un petit peu comprendre ce que ici il est en train de dire. Si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable. Qu'est-ce que Paul... s'il est dans l'hypothèse. Si je reconstruis ce que j'ai détruit, de quoi il parle ? Eh bien, il parle du fait de retourner au système de l'obéissance à la loi. Effectivement, si je retourne en arrière, si je me dis « j'ai besoin de l'obéissance à la loi pour être sauvé », dans ce cas-là, je suis coupable. Pourquoi ? Parce que face à la loi, je suis toujours coupable. Je ne peux pas obéir parfaitement à la loi. Donc là, Paul est en train de dire, si je me mets à reconstruire tout ça, alors que je l'ai abandonné pour Christ, eh bien c'est là que ma culpabilité est réelle. Et Paul vient de dire, au verset 16 notamment, que personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Donc, en fait, c'est peine perdue que de vouloir reconstruire ce que j'ai détruit. Et c'est là que nous arrivons à ces derniers versets qui sont importants. Importants pour pouvoir nous approprier ces vérités. Et d'abord, j'aimerais me concentrer sur la première expression. Qu'est-ce que Paul est en train de dire lorsqu'il dit « C'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi » afin de vivre pour Dieu. Qu'est-ce que mourir à la loi ? Nous comprenons bien que ce que la loi exige de notre part, bien sûr, c'est que nous puissions obéir, mais si nous n'y arrivons pas, ou si nous avons échoué, qu'est-ce qui nous arrive ? La loi déclare que nous devons mourir. La loi déclare que nous sommes condamnés. Et effectivement, nous le méritons parce que nous sommes pécheurs. Mais ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que Dieu a pourvu à cela. Christ a subi ce que la loi exigeait. Christ a subi à ma place ce que la loi demandait de moi, que je meure à cause de mes péchés. Christ a satisfait à la justice de Dieu. Et ça, c'était nécessaire. Et ça, nous devons bien le comprendre lorsque nous pensons à la croix, qu'il était nécessaire que Christ meure, parce que mes péchés ne peuvent pas rester impunis. Il faut que quelqu'un paye. Soit c'est moi, soit c'est Christ. La justice de Dieu ne peut pas être accomplie si Christ n'était pas mort pour moi. Pour comprendre encore cette idée de mourir à la loi, eh bien, pour le dire, bon, je vais essayer de le dire simplement, que par la mort de Christ à ma place, en tant que mon représentant, eh bien moi-même je suis mort. Moi-même, je meurs juridiquement, de telle sorte que la loi n'a plus à me réclamer quoi que ce soit. La loi n'a plus à me dire « il faut que tu meurs, je suis déjà mort avec Christ ». Je suis déjà crucifié, verset 20, avec Christ. Bien sûr, lui, il l'a fait à ma place, mais du fait que j'ai placé ma confiance en lui, c'est avec lui que je suis crucifié. Je suis mort juridiquement. Et ça, c'est important de le comprendre pour la suite, pour la deuxième expression. D'ailleurs, nous avons chanté tout à l'heure, nous l'avons répété, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que nous cessons d'exister quand on dit « ce n'est plus moi qui vis » ? Est-ce que moi, je disparais ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si je suis mort juridiquement, dans ce cas-là, effectivement, ce n'est plus moi qui vis. Mais celui qui me permet de vivre, c'est qui ? C'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire je n'ai plus besoin de toute façon de m'appuyer sur mes œuvres ou de chercher à gagner la faveur de Dieu par mon obéissance, ce n'est plus moi qui vis, je suis mort, parce que je méritais la mort. Je suis mort avec Christ, il a pris ma place. Et donc, parce qu'il a pris ma place, c'est grâce à lui que j'ai une nouvelle vie. Ce n'est plus moi qui vis, juridiquement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si j'ai une nouvelle vie aujourd'hui, ce n'est pas à moi ou à mes œuvres que je la dois, mais à Christ seulement. Et c'est important que nous puissions, encore une fois, nous approprier ce que Paul est en train de dire. Ce qu'il dit là, nous devrions tous être capables de le dire. Effectivement, ce n'est plus moi qui vis, mais je dois ma vie à Christ. Et enfin, qu'en est-il de cette vie chrétienne que nous vivons, de cette vie présente ? Eh bien, Paul dit... Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Mes amis, à aucun moment un chrétien peut estimer qu'il peut se passer, ne serait-ce que d'une seconde, de ce que Jésus a fait pour lui. Notre vie maintenant en tant que chrétien ne peut pas être séparée de la foi que nous avons placée en Christ. Et Paul ajoute ce qui doit inlassablement nous toucher. Notre foi est en qui ? En celui qui nous a aimés, en celui qui s'est donné lui-même pour nous. C'est une réalité historique qui inlassablement doit nous toucher. Et nous avons pris le temps tout à l'heure de chanter à ce sujet-là, au sujet de ce sacrifice que Jésus a volontairement accepté par amour pour nous. J'ai été crucifié avec Christ et désormais j'ai une vie nouvelle. Telle est la grâce de Dieu pour nous qui sommes pécheurs et désormais justifiés. Regardez le verset 21. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Pour le dire encore autrement, si l'homme pouvait encore jouer un rôle dans son salut, à quoi servirait le sacrifice de Christ ? Si on pouvait se sauver par nous-mêmes, par nos propres moyens, par notre obéissance, à quoi servirait le sacrifice de Christ ? Il nous faut admettre que seule la foi en Christ nous permet de bénéficier de notre statut de justifié, de notre statut de non coupable, non condamné devant Dieu. Et Dieu nous déclare juste à cause de la justice parfaite de Christ. Comme l'écrit Jules Marcel Nicole dans son précis de doctrine chrétienne, Dieu met à notre compte la justice de Jésus-Christ, indépendamment de ce que nous avons été ou de ce que nous sommes. Dieu met à notre compte, lorsque nous nous présentons devant lui, la justice de Jésus-Christ, indépendamment de ce que nous avons été dans le passé et de ce que nous sommes dans le présent. Et d'ailleurs, vous connaissez aussi ce verset dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » À la croix s'est produit un échange pour lequel nous serons éternellement reconnaissants. Lui est devenu péché pour nous, et nous sommes devenus justice de Dieu en lui. Restons attachés à la vérité de l'Évangile, en nous rappelant qu'aucune œuvre de la loi ne peut nous rendre acceptables devant Dieu. Aucune œuvre de la loi, aucune obéissance de notre part ne nous rend acceptables devant Dieu. Et si parmi nous, je ne sais pas, certains n'ont pas encore mis leur confiance en Christ, pourquoi pas aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui même, Dieu peut vous déclarer juste si vous croyez que Jésus a porté vos péchés, si vous croyez qu'il a été condamné à votre place pour vous permettre d'être en règle avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que bien que pécheur, vous pouvez ne pas être condamné. Précisément parce que Jésus-Christ a satisfait pleinement, parfaitement à la justice de Dieu pour vous. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, Dieu peut vous déclarer juste si vous placez votre confiance en lui. Et pour toi qui as mis ta confiance en Christ récemment ou depuis longtemps, continue de vivre dans la foi au Fils de Dieu, comme tu l'as fait au début de ta vie chrétienne. Continue de vivre dans la foi au Fils de Dieu. Continue d'avoir confiance que Dieu t'a déclaré juste, Dieu t'a déclaré non coupable, et que Christ n'est pas mort en vain. Est-ce que tu mesures combien c'est précieux de savoir que Dieu a décidé que tu n'es plus condamné ? Que tu ne seras plus condamné. Et cela même si tu pèches encore dans cette vie. Combien c'est précieux de savoir que je suis justifié une fois pour toutes. Et je recite Jules Marcel Nicole, toujours dans son précis de doctrine, que je vous recommande, hein, et qui écrit « La justification a lieu une fois pour toutes et n'a pas à être renouvelée. Les fautes auxquelles, hélas, il nous arrive encore de succomber ne compromettent pas notre position de croyant justifié. » Vous avez bien entendu. Les fautes auxquelles il nous arrive encore de succomber ne compromettent pas notre position de croyants justifiés. Nous sommes justifiés, et ça malgré nos péchés, malgré le fait qu'on continue de pécher. Ça ne change pas notre statut. Définitivement, nous devons continuer de compter sur ce que Christ a fait pour nous, plutôt que sur ce que nous pouvons accomplir pour Christ. Compter davantage sur ce que Christ a accompli pour nous, plutôt que de compter sur ce que nous pouvons accomplir pour Christ. Et je le répète encore une fois, aucune de nos bonnes œuvres ne nous rendra plus acceptables aux yeux de Dieu. aucune. Dieu nous a déjà déclarés justes et il ne reviendra pas sur sa décision. Tout comme nous ne pouvons pas annuler ce que Christ a déjà fait pour nous. Dieu nous a déjà déclarés justes et il ne reviendra pas sur sa décision. Et en tant qu'Église, et je vous le demande, veillons ensemble à ne pas nous écarter de la vérité de l'Évangile. Cet Évangile que nous ont transmis les apôtres, et parmi eux l'apôtre Paul. Veillons à ne pas nous laisser séduire, comme les Galates, par un faux Évangile qui promet le salut si nous faisons telle œuvre pour Dieu. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Désormais, le slogan « Sola fide » n'a plus de secret pour vous, par la foi seule. Il s'inspire de l'Évangile que l'apôtre Paul rappelle aux Galates et qu'il défend même face à Pierre. Et je le redis, selon cette bonne nouvelle, Dieu nous déclare juste non selon les œuvres que nous pouvons accomplir, mais par le moyen de la foi en Christ qui a tout accompli. Et de cette manière, tout n'est que grâce de la part de Dieu. Et quand un jour nous comparaîtrons au tribunal de Christ, nous n'aurons aucun doute sur le verdict. Aucun doute. Le Seigneur ne se contredira pas. S'il nous a déclarés justes dans cette vie-ci, il nous justifiera encore lors du jugement dernier. Et comme Paul l'écrit un peu plus loin aux Galates, justement à ce sujet, quant à nous, notre espérance est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente. Nous attendons ce jour que l'Esprit fait naître en nous. Nous attendons le jour où, devant le tribunal de Christ, nous sommes déclarés justes. Amen. Prions ensemble. Devant ta parole, nous n'avons pas notre mot à dire. Tu parles et nous écoutons. Et ce que tu dis à notre sujet est plus important que ce que nous pouvons penser de nous-mêmes. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que cette doctrine de la justification par la foi est tellement importante pour nous libérer de tout fardeau de culpabilité que nous pouvons porter avec nous, de tout sentiment d'être condamné par toi, alors que tu nous déclares justes, Seigneur, non pas à cause de notre obéissance ou de quelque bonne œuvre que nous pouvons faire, mais simplement parce que nous mettons toute notre confiance dans ce que Jésus a fait pour nous. Oui, Christ a entièrement satisfait à ta justice, et c'est pour cela que nous pouvons être sereins dans notre vie chrétienne. Nous n'avons pas à craindre que d'un coup, tu changes d'avis à notre sujet. Si tu nous as déclarés justes, nous pouvons garder cette espérance qu'un jour, effectivement, lorsque nous devrons être jugés par toi, lorsque nous devrons nous présenter devant Christ, notre juge, eh bien, nous serons déclarés justes. Cela ne fait aucun doute, parce que c'est toi qui nous le dis. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu savais bien que par nous-mêmes, nous étions incapables de pouvoir nous sauver, de pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un peu de ta faveur. Mais parce que tu nous as manifesté ta grâce, alors nous ne pouvons qu'être reconnaissants. Reconnaissants que, effectivement, nous ne méritons rien, mais que tout nous vient de toi. Et nous voulons te remercier pour cela. Oui, pour chacun d'entre nous, on veut encore t'exprimer notre gratitude et continuer à vivre en étant attaché à cette vérité. Que toute gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen.